Bonjour, encore une belle semaine de vacances qui s'annonce dans la bande originale de votre été avec ce matin. Mélanie Laurent, Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Emmanuel Devos, Jean-Loup Dabadie, Isabelle Carré, Géraldine Nakache, Vincent Tezania et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti! Bel été à vous!
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Jean, vous écoutez.
Génial!
Moi, tu vas me dire que je suis trop
snob,
je choisis que les trucs cœurs. Ouais. Tu vas me démonter.
Non, mais le problème, c'est qu'on va l'avoir longtemps.
Je n'écoutais pas.
Cette phrase-là, on va la mettre de côté.
Tu l'as enregistrée?
Non, tu vas me démonter, on va le mettre de côté. Non, mais on est à l'antenne.
Alors,
enlève-la. Non, mais on est en direct, Mélanie.
Mais vraiment dans le sens...
Dans le sens d'un match de...
Bah oui,
il va gagner le match.
Voilà.
Je tenais à le préciser. Partir un jour... C'est de l'ironie quand vous dites que vous écoutez ça en 97.
Non, c'est ce que je disais, je l'écoutais pas. On vivait complètement. Ben, rappelez-vous de cette vague qui a duré quoi? 2 ans? 3 ans?
Trop longtemps.
Très longtemps. C'était l'époque des To Be Free, des Words Apart, des.
Alliage.
Et nous, on avait fait une parodie avec les Nous, c'est nous.
Les
Boys Band, voilà. Ça me rappelle ça, 97.
C'est ça, c'est l'époque Graine de Star. On est en 97. Vous êtes 3 fois vainqueur dans la catégorie comique. Et c'est là que vous incarnez notamment le personnage de Brice Denis, que le grand public découvre. Quel souvenir vous avez de cette époque-là avec Bruno Salomon, Eric Collado?
C'est mes premières télés, c'est une grande trouille avec Laurent Boyer, t'entends le générique de Graine de Star et là, le challenger, il s'appelle Jean Dujardin. Bonjour, on va bien faire du cinéma.
Dans ces mêmes années, fin des années 90, Mélanie Laurent, vous écoutiez Tracy Chapman.
Voilà.
Il y avait moins de chorégraphie dans ces concerts.
C'était bien, hein.
C'est vachement bien.
Bah ouais.
Puis ça durait plus longtemps.
Ouais.
Bon.
Ça fout une pêche.
On n'arrive pas à en s'enlacer.
Ah ouais, la patate là.
Non, mais quand même, elle a été cultissime avec Talking About Revolution, Fascar aussi. Là, vous revoyez dans ces années, fin des années 90, quoi, dans une chambre d'étudiante à courir les castings, à quoi faire?
En fait, c'est Depardieu qui m'a proposé de faire du cinéma, mais
par hasard.
Avant, j'avais 13 ans, en fait.
Oui, c'est ça.
Je ne me posais pas la question.
Vous retrouvez sur le tournage, en fait, d'Astérix et Obélix contre César, et parce que je crois qu'il y a une de vos copines, son père bossait sur le tournage, donc vous êtes là, et.
Il vient me voir en Obélix.
Vous croisez Gérard en Obélix.
Ouais. Et il me dit, est-ce que tu veux faire du cinéma?
Mais ça, c'est franchement,
c'est
difficile. Non, mais c'est difficile à le croire. C'est-à-dire que sur un tournage d'Obélix, je vois pas à quel moment on sort du plateau pour aller voir une enfant de 13 ans en lui disant « Est-ce que tu veux faire du cinéma ?» sans savoir si elle sait jouer, si elle a peur ou pas d'une caméra.
En même temps, tu provoques la chance parce que tu y vas quand même.
T'es là, oui.
Et en même temps, c'est improbable qu'il passe devant nous, qu'il s'arrête et qu'il me dise « Toi, est-ce que tu veux faire du cinéma ?»
C'est dingue.
Et c'est improbable qu'on aille au bout de ça, c'est-à-dire que...
Oui,
que
vous
2 mois plus tard, parce que moi, quand je rentre chez moi, mes parents me disent, tu sais, on déjà été en Obélix, et en plus,
la drogue, c'est pas bien.
Voilà.
Moi, j'avais fait la même chose, ils étaient venus me voir en disant, toi, pousse-toi, t'es dans le champ.
Il croyait que c'était une petite fille aussi.
C'est un badge.
Non, mais d'autant que c'est votre papa qui est comédien aussi. Donc
mes parents, ils m'avaient dit ça. C'est pas parce qu'il te dit que tu vas faire du cinéma que tu vas faire du cinéma. Il y avait beaucoup de. C'est incroyable qu'il ait rappelé que j'ai passé un casting pour son film et qu'il m'ait prise et que j'ai commencé avec lui. C'était une chance inouïe.
Ok, non, ça rajoute à la légende. Ok, je discute pas. En 2007, Jean Dujardin, vous chantiez du moins. Qu'est-ce que c'était bon ça?
Ah oui, j'adore.
Vous avez dit Michael Young? Remets-le au début, j'ai entendu Michael Young. Remets-le au début, je suis sûr que vous dites Michael Young à un moment donné.
Non.
Écoutez bien les paroles. Maintenant? Le caméo de Michael Young, c'était trop fort quand même.
L'orchestre oriental, c'était absolument magique. Vous êtes nommé au César Jean Dujardin en 2007.
Et aux victoires de la musique.
Catégorie musique du monde.
Qu'est-ce que c'était bien. Et cette scène était c'est incroyable. Ouais. En plus, ouais. Michel Hazanavicius vous a mis dans un confort pour la tournée, cette scène, en mettant plusieurs caméras.
Oui,
en vous disant...
c'est un de mes meilleurs souvenirs. Oui, elle dure, je pourrais dire, 5-6 minutes. Ouais, le temps d'avoir tous ces espèces d'agonie de temps où il se rend compte que finalement, il est peut-être un chanteur. Il a oublié son enquête.
Il est en kiff.
Et en fait, c'était, oui, en fait, au départ, je crois, Jean-François Alain, qui a
co-scénariste.
Qui a même créé le personnage. Ouais. En fait, il a écrit le premier OSS 117. Et ensuite coécrit avec Michel sur le deuxième. Et effectivement, il voulait en tout cas que je chante que je joue déjà Bambino. Ensuite, Michel lui a dit il pourrait peut-être le chanter, et Jean-François a dit il pourrait peut-être le chanter en arabe. Ouais. Le chemin a été.
Ajoutons-lui une
chute. D'accord. Vous voulez pas vous parler avant, les gars. Histoire de.
Heureusement, ils étaient que trois.
Non, mais c'est complètement fou, un anti-héros là encore, un loser fantastique, c'est cet agent secret. Et est-ce que pour préparer un rôle comme ça, on s'inspire du vrai héros qu'on va voir, les James Bond, vraiment de façon assidue et...
On fait les poches comme tout le monde d'ailleurs, je pense
que
le réalisateur effectivement va voir des films des années 60. Ouais. Et effectivement, l'idée était quand même de s'approcher du plus de Dr No.
Mais les codes sont hyper respectés, même quand il y a des courses-poursuites où il y a deux rues, le mec tourne la tête à
gauche. Gauche, droite, c'est comme les bagarres, le mec s'attend avant de se mettre des coups de poing, vous savez. Dans la vie, c'est très désordonné, on va dire. C'est à toi, à moi.
Très travaillé.
Ouais, sur la gestuelle même, j'ai la sensation, votre façon de vous tenir, de vous positionner.
C'est ce qu'on dit, le mouvement, c'est la gestuelle.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Bon voilà, tu sais que t'étais pressenti pour le championnat. On a pris notre décision et c'est Patrick qui... Angelo, sois sportif.
Ça m'aide bien Marcus, celui-là.
On va aller loin tous les deux.
T'as du talent.
Bientôt tu vas pouvoir te battre avec un bel adversaire.
Qu'est-ce que tu m'ébrouilles, Marcus? J'en ai rien à foutre, Marcus, je suis déjà mort.
C'est un extrait de la bande-annonce de Scorpion de Julien Seri, que vous avez tourné, c'était en 2007, et vous incarnez
dingue, ce film.
Un boxeur, et vous disiez que c'était voilà, dans une vie de comédien, en tout cas dans la vôtre, il y avait un rêve de môme, c'était vous qui avez grandi avec Rocky.
Mmh. Avec le fantasme d'être champion du monde.
Ouais.
Donc c'était formidable à tourner, puis c'était vraiment la limite, c'est-à-dire pour que ce soit crédible. Donc j'étais hyper heureux en fait que Julien me propose de jouer un combattant, parce que voilà, j'arrivais à la quarantaine à ce moment-là, et tu te dis gars,
est-ce que ça
faut
marche
qu'on se dépêche.
Physiquement vous aviez bossé,
transformation
musclé. Ah ouais, c'est incroyable. Vous avez tout perdu, mais à l'époque c'était.
Mais
très...
en fait, c'était
ce qui était plus que perdu.
Ce qui était ce qui était très chouette, c'était MMA.
Ne l'énerve pas.
C'était de
MMA, c'est quand tous les coups sont permis.
Chut. Ouais, presque.
Dans une cage.
Presque. Ouais.
Dans une cage.
Et c'était un sport de combat que je n'avais jamais pratiqué, donc c'était très chouette de. C'était le dernier qui me manquait, c'était l'ultime.
Ouais. Ouais,
donc c'était super de pouvoir. Voilà, parce que moi, j'ai de l'âge de 6 ans jusqu'à 42 ans, j'ai combattu toute ma vie. Ça me faisait du bien. Et de finir par le truc ultime comme ça, c'était très chouette.
Et puis, je crois que vous étiez particulièrement courbaturé tout le temps. Je crois pendant un an, ça a été un...
Bon, on a pris cher parce que, en fait, l'idée, et Julien, c'était une très belle idée de Julien, qui est lui-même combattant, Julien Seri, et qui est lui en Kukushunkai et tout ça, qui est très...
Kukushunkai. Dites des choses normalement.
C'est normal. C'est du karaté, mais c'est du karaté au chaos. Donc c'est du karaté porté. Donc tu signes une décharge de mort. Non mais c'est vrai. Tu fais une
décharge de mort.
Oui, bien sûr.
J'accepte de mourir.
En tout cas, ça fait partie de la possibilité.
C'est
Kukushunkai.
Kukushunkai.
Moi aussi. Et du coup, bref, lui, c'est un vrai combattant et il filme très bien. Et ce qu'il voulait, c'était justement à l'inverse des films de combat en général. C'était de filmer les impacts et pas de filmer derrière. C'est-à-dire, on fait toujours semblant, on se touche pas. Normalement, nous, là, on se touchait sans appuyer.
Ouais.
Mais bon, voilà. Avec Jérôme, le banner que je salue, que j'adore, qui est mon ami. Voilà, quand t'as Jérôme en face de toi, avec la fatigue, de temps en temps, ça rentre. Et quand ça rentre, tu le sais, t'es au courant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est immédiat.
Mais Jérôme le banner, rien que d'en parler, j'ai un peu peur. bonne. C'est vrai qu'il est effrayant.
Ouais, il est effrayant.
Et c'est un mec en or. Hein.
Mais il est gentil.
Mais il envoie, il est très puissant.
Faut lui dire monsieur quand on l'interviewe.
Mais ça représente.
C'est mieux d'une manière générale, hein, ouais. Même avec les petits maigres.
Ouais. Ouais, c'est plus gentil.
Tu sais pas, il peut avoir une arme.
Faut se méfier, c'est comme avec les patous. Mais je me disais combien de. Ça représente quoi une préparation physique comme ça? Vous parliez d'Abdelkader Daou dans vos interviews, mm-hmm. qui vous suivait un peu partout. On consacre combien de temps dans la journée à la préparation physique et combien de mois à l'avance pour être prêt?
Bah là, j'avais pris un an.
Et
pendant un an, Abdelkader m'a suivi sur tous les films que je faisais. Et en fait, il m'entraînait entre les prises des autres films et puis la nuit, de temps en temps, ou machin, on trouvait pour faire au moins 5 heures d'entraînement par jour.
Mais 5 heures par jour.
D'entraînement, pardon, y compris la muscu basique ou
pas de muscu.
Boxe. Ah, pas de muscu.
Non, mais moi, j'ai jamais fait la muscu, en fait. C'est un truc qui... En fait, ça m'a toujours gêné pour combattre et tout ça. C'est que avec c'est mon poids de corps ou tout ça. Mmh. Parce que, en fait, très vite, tu te rends compte aussi, gamin, que de temps en temps, tu tombes sur un type très musculeux et tu le défonces parce qu'il n'a pas il a trop de muscles par rapport, en fait, à sa vitesse, à dextérité et tout ça. Et en fait, il est emprunt.
Il est plus tétanisé. Oh.
T'as des gens très puissants qui ont des corps dégueulasses, hein. Vraiment, c'est très surprenant. Ouais. Tu regardes en Amérique du Sud, les boxeurs.
Les hommes qui font des concours, genre les hommes les plus forts du monde qui tirent des camions et tout ça, c'est rarement des gens bodybuildés, c'est juste des masses en fait.
Ils sont puissants.
Et ça n'a rien à voir avec.
Mais même la puissance.
Ils ont des tout petits gags.
Ça va pas.
Ça va pas. Mais t'as quel âge? Mais t'as quel âge? Mais c'est pas possible.
Clovis Cornillac, là, ça c'est un rêve de gosse réalisé, incarner un boxeur au cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres rêves de gosse?
Non, je les dirai pas.
Pourquoi?
Je dis jamais. Bah parce que je pense que l'expérience a fait que quand j'étais au théâtre pendant des années, j'ai eu la chance d'avoir des grands rôles et tout ça. Et puis j'avais des camarades, pareil, pour qui ça marchait très bien, et qui disaient je rêve de jouer Lorenzaccio et tout ça. Ils le disaient à des metteurs en scène et tout. Puis ils insistaient un petit peu. Puis un jour on leur proposait Lorenzaccio par exemple, et ils étaient pas très bons dedans. En fait, je pense que souvent les fantasmes qu'on a, oui. Je préfère le garder. Et si un jour on me le propose, je serais ravi. Mais quand t'es au départ du projet, je me méfie beaucoup. Parce que je pense qu'on ne se voit pas tel qu'on est. Et que le travail d'un acteur, c'est plutôt d'être le désir des autres.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Si vous voulez, je regrette même, vous voyez, quand je fais un film, par exemple, je regrette d'être... obligé de les interviewer, je parle pas de ce qu'on fait en ce moment, mais j'ai un goût pour l'anonymat très grand. Je serais très heureux que mes films sortent à côté des gares. J'aime beaucoup les cinémas qui sont à côté des gares, Cinévox Saint-Lazare, les cinémas comme ça, où les gens rentrent avant de prendre le train et sans savoir vraiment ce que c'est, sans regarder même le titre. Ça, j'aime beaucoup ce cinéma-là, où on a 15 photos et puis on entre ou on n'entre pas.
François Truffaut, Jean-Loup Dabadie, avec qui vous avez fait en 72 Une belle fille comme moi.
Oui, Bernadette Lafont.
Et avec qui vous avez failli faire Le dernier métro.
Oui.
Pourquoi failli? Que s'est-il passé?
Parce que c'est comme lorsque Emmanuel me fait trembler en disant on n'est pas sûr de faire la tournée, ça dépend de nos agendas. Leur mettre la pression.
Je peux dire qu'elle va faire la tournée, la petite.
C'est trop dommage que le public en France soit réduit. Seule notre belle petite place est.
Elle va faire la tournée des théâtres qui sont près des gares.
Comment
comme ça.
Et donc,
en ce qui concerne le dernier métro, évidemment, c'est un des regrets de ma vie. Pas tout à fait un regret, parce que la raison simple pour laquelle je ne pouvais pas répondre à l'invitation de François, c'est que je commençais un film avec et pour Claude Sautet.
Clara,
d'écrire aussi.
Non, je sais pas lequel c'était, mais j'avais signé pour un film de Claude Sautet. Nous avions commencé à travailler. Et je ne pouvais pas, contrairement à ce qui s'est passé, je ne vais pas être long, hein, contrairement à ce qui s'est passé quand j'écrivais César et Rosalie,
oui.
Petite anecdote à vous raconter, parce qu'elle fait partie de notre vie, ce genre de choses, ça serait plus possible, je crois, maintenant, et encore que. Alors, à un moment,
J'ai dit à Claude, à un moment de l'écriture, il venait à la maison tous les deux, trois jours pour relever les copies, ma copie, les scènes. Il les lisait, c'était un très grand lecteur, très grand metteur en scène, acteur, bien qu'il n'ait jamais joué. Mais il le jouait pour nous, pour moi, notamment quand on travaillait. Et alors, à un moment, je lui dis, écoute Claude, je suis atteint de je ne sais pas quoi. Je ne peux plus supporter cette femme, Rosalie, le personnage de Romy.
C'est vrai.
Je ne peux plus la voir, je ne peux plus la supporter. Elle serait dans ma vie, j'aurais horreur d'elle. Elle est épouvantable avec Samy, avec le rôle de David, épouvantable avec Montand. Elle les emmerde tous les deux. Quand elle a fini de torturer l'un, elle tourmente l'autre. Elle les fait courir tous les deux. Elle est insupportable. C'est une, et je lui dis, une emmerdeuse pareille. Comment tu veux qu'on fasse venir le, enfin, lui était très colérique. Alors, sans doute, par contagion, même dans une colère théorique et ridicule, entre les quatre murs du studio où on travaillait. Et alors, à cette époque, François Truffaut m'avait dit, dès que vous avez fini avec Claude, vous me rejoignez, on va faire une belle fille comme moi. Et Claude, on était, je dirais, j'en étais à la moitié de l'écriture. Et Claude me dit, mais écoute, mon coco, tu vas faire une chose, c'est pas compliqué. Il faut que tu te remettes de ça, tu peux pas continuer comme ça. Tu vas aller faire le film avec François, il va être très content. Et puis quand tu auras fini le film avec François, tu reviens et on reprend. C'est incroyable, incroyable de patience.
Va prendre un peu l'air pour te détendre et reviens quand ça ira mieux.
Il savait qu'avec François, on ne partait pas jouer longtemps, parce que François, c'était le Speedy Gonzalez. Il avait trois films en même temps, je me rappelle quand on avait fait Une belle fille comme moi. Il finissait l'écriture avec un de ses amis de La nuit américaine, et il préparait Adèle H pour Isabelle Adjani. Et au milieu de ça, il y avait une grande table où quelquefois je cherchais mes notes, je tombais sur une scène pour Adjani, dans Adèle H, pour autre chose. François était comme ça. Nous arrivons au bout du scénario, et François me dit, moi j'ai toujours besoin de rester un peu seul avec... Bon, c'est une attitude classique, normale. Donc, retournez donc voir Claude. Il sera très content. Claude était dans sa maison du midi, je l'appelle, comme le fils prodigue. Est-ce que je peux revenir? Il me dit, viens mon coco, viens. On a repris, et trois mois après, le scénario de César et Rosalie était fait.
Je voulais entendre aussi Emmanuel sur Truffaut, parce que ça fait partie aussi des cinéastes que vous aimez particulièrement.
Le film de Truffaut, c'est à la fois très romanesque.
Comment expliquer à un enfant qui n'a jamais vu Truffaut? Vous diriez quoi à un enfant en disant...
Bah, il faut commencer par regarder les 400 coups. Je pense que n'importe quel enfant... moi, j'ai montré ce film à mes fils. Ils devaient avoir 8 et 10 ans. Et tout de suite, ils ont... Et après, l'argent de poche. Et voilà, c'est plié. Ils aiment Truffaut à vie.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale sur France Inter, mais vous serez encore mieux après. Cavalier seul, Juliette Armanet. C'était Juliette Armanet avec Cavalier Seul. Oh non, voilà Alison Wheeler.
J'ai attendu le texto à minuit, j'ai rien eu. Bonjour à tous.
Non, j'étais avec ma femme.
Est-ce que tout le monde a bien fait sa résa au flunch pour ce soir? Parce que va y avoir des légumes à volonté, si vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez compris, c'est à Saint-Valentin. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, au risque de mettre à dos les lobbies des fleuristes, des bijoutiers et du latex. Oui, la Saint-Valentin est une fête commerciale, on est bien d'accord. Et alors, j'ai envie de vous dire où est le problème. C'est pas une raison pour pas faire d'efforts. Ça coûte rien d'arracher une fleur d'un rond-point, de m'imprimer les paroles de Lara Fabian sur une carte avec un pchit de Scorpio. Un peu de magie, merde. D'ailleurs, la Saint-Valentin, c'est pas qu'une fête commerciale, c'est une tradition bien plus ancienne. Historiquement, la Saint-Valentin a été inventée pour faire cesser les traditions païennes des Lupercales, des fêtes célébrées par les Romains, où on avait l'habitude de fouetter des femmes en pleine rue avec des peaux de bouc pour les rendre plus fertiles. Ce qu'on mais appellerait aujourd'hui des Bertrand Cantal ou du Chabamé.
Attention au harcèlement là, attention.
Des peaux de bouc parce que dans les mythologies, les divinités mi-homme mi-bouc sont symboles de fertilité. Faunus Lupercus chez les Romains, Pan chez les Grecs ou Manuel Valls chez les socialistes. Mais alors, pourquoi tapaient-ils sur les femmes? Eh bah parce qu'ils n'avaient pas de bambou, pardi. Non, c'est surtout qu'à l'époque, c'était le sport numéro un, car les mythologies font souvent référence à des dieux mi-animal, misogynes. C'est le pape, Gélase Ier qui mit fin à cette tradition en décrétant que le 14 février serait dédié au culte de la Saint-Valentin, un moine décapité 2 siècles plus tôt. Moi, j'ai envie de dire merci Gélase Ier, c'est vachement plus sympa de recevoir une boîte de chocolat qu'un coup de fouet, même au visage. Et là, je pense à mon mec qui dit que la Saint-Valentin, ça coûte un bras, alors qu'à Valentin, ça lui a coûté sa tête. J'aime trop mon mec qui se découvre une conscience anticapitaliste pour la Saint-Valentin, le genre de Karl Marx d'un soir, le poing levé d'un côté, de l'autre, la petite main qui zappe discrétos sur Bing Sport pour mater PSG Real. Hey, tu crois que j'ai pas grillé, là? Oui, ton maillot du PSG, il t'a coûté plus cher que le mien chez Body Minute, ok? Alors ok, on fait un deal. On regarde le match ensemble, mais je te préviens, à la mi-temps, tu vas jouer ta saison, mon gars. Non, en vrai, on devrait pas autant se mettre de pression comme ça pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin ne m'imposera pas ses règles, l'inverse étant plus probable. La vérité, c'est que pour célébrer l'amour, chacun fait comme il veut. Tu peux sortir le grand jeu, tu peux faire une demande en mariage avec un orchestre symphonique ou demander le divorce sur du Joule, opter pour un dîner en tête-à-tête ou un repas en famille comme Christine Boutin. Jouer la carte de la surprise, l'attendre nu sur des galets façon Cabrel. Tu peux attendre Mathieu Gallet sur du Cabrel si tu veux. Dire à ton plan cul que tu veux qu'il devienne ton plan cœur. Et si t'es seul et que tu te dis que tu penses que tu finiras mort dans ton appartement bouffé par des chats aveugles, dis-toi bah, que c'est qu'une fête commerciale.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Isabelle Carré, qui vient pour son livre Les Rêveurs. Où Isabelle, vous nous parlez de vous. Voilà, alors à travers un roman, mais il y a quand même énormément de vous. Hein, mais pas comme on vous connaît à l'écran ou en interview. Vraiment, c'est un vous très intime. C'est marrant, on avait une image de vous, comme dans toutes les interviews, à base de questions trop longues de Nagui et de réponses coupées. Bref, on avait une image de vous radieuse, solaire, discrète, lumineuse, comme vous avez dit. Voilà, après la lecture du livre, on se dit, bah merde, putain, il faut vraiment pas se fier aux apparences. Et du coup, ça m'a remis tout mon entourage en cause et en question. Et, par exemple, qui est le vrai Daniel Morin?
Ah. Oh là là,
on ne veut pas savoir.
Ah, qui se cache derrière ce...
C'est plus un rêve, c'est un cauchemar.
Qui se cache derrière ce physique d'ours mal léché, un peu bougon, souvent ronchon et continuellement alcoolisé. Que fait le vrai Daniel Morin dans la vraie vie? C'est vrai. C'est obligé vrai. De continuer à boire pour garder un statut social, alors que dans la vraie vie, il déteste l'alcool. C'est fou. Obligé de trouver que tout est de la merde. Obligé de dire des horreurs juste pour garder un peu la tête haute. Ça, c'est terrible. Alors que dans l'intimité, Daniel n'est qu'amour. Certes, avec du poil autour, mais en fait, on découvre que Daniel, il regarde Plus belle la vie. Il adore Christophe Maé. Il lit même les livres de Marc Lévy en cachette, comme ça. Et Leïla. Qui se cache derrière cette personne sérieuse et érudite? N'a-t-elle pas envie de se détendre sur la plage parfois? Assurément, oui, je pense, oui. Obligée de cacher son closer dans un livre de Delphine de Vigan pour pas se faire griller. Et pour nos amis auditeurs qui ont un peu le compas dans l'œil, c'est vraiment très dur à réaliser. Faire entrer un 21-29-7 dans un format 13-20, c'est très dur. Sauf si vous êtes adepte de l'origami ou du papier découpé. Guillermo imagine un porno avec une asiatique. Enfin bon, bref, du coup, tu vois.
Oh, et ça va pas.
Bah pourquoi toi?
On sait que c'est toi.
Leïla, qui a toujours les oreilles qui sifflent, tel un dauphin du Marineland, qui incarne la classe, l'information et le sérieux, les week-ends sur France 2, c'est vrai, dans la vie, elle aussi regarde Yahoo Insolite. Voilà. Et elle rigole quand il y a un sanglier qui rentre dans un centre commercial pour faire éruption chez le coiffeur de la galerie marchande. C'est fou. Guillermo Guise. Alors, ce qui est bien avec Guillermo, c'est que c'est le même dans la vie que dans ses chroniques. Donc ça, c'est le gros avantage. Et Nagui, qui est-il vraiment?
Ça te regarde pas.
On n'a pas tout à fait le temps, on va être un peu ric-rac. Mais, et moi, le premier qui suis-je vraiment, un garçon très cultivé, adepte de l'humour à l'anglaise, comme je laisse paraître à cette antenne. Non. Que nenni, non. Moi, quand on me dit Nathalie Baye, je crois que c'est une information. Et j'attends de savoir pourquoi. Et Mélanie Doutet, je la comprends, mais de qui? Et Isabelle Carré, peut-elle tourner en rond? Voilà toutes ces questions que je me pose. Bref, il y a des fans de jeux de mots, attention, on n'est pas à l'abri.
On lui a jamais fait ça.
J'adore votre vie intérieure.
Ouais. Ouais, vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Faut pas se fier aux apparences, et ça doit être la cinquième fois qu'on vous reçoit dans la bande originale, et finalement, on a l'impression que c'est la première.
Peut-être même plus que ça.
C'est vrai, peut-être plus que ça.
Tant mieux, il faut que ça dure.
Bon, si vous permettez, je vais terminer avec une petite citation. Vous aimez bien ça, donc je vais citer François Valéry qui disait « Aimons-nous vivants et n'attendons pas que la mort nous trouve du talent ». Alors, bonne émission.
Tu veux savoir ce que c'est qu'une demi-vie, Mathilda? Demande-moi, t'as devant toi la version originale de la demi-vie. Je suis coincée entre une fille qui a un demi-cerveau, une autre qui a un demi-tuba et ses surpattes. Monsieur Cotine, un demi-mari, je vis dans une maison pleine de demi-merde de lapin avec un demi-cadavre.
C'est un extrait de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Je comprends que vous ayez choisi un titre court pour ce roman.
C'était juste pour le titre, en fait, que je voulais monter cette pièce.
Une comédie sociale familiale qui a été portée à l'écran par Paul Newman. Et c'est une pièce que vous avez mise en scène, c'était en 2015 au Théâtre de l'Atelier, justement là où vous vous trouvez en ce moment avec Bruno Solo pour Baby, dans laquelle vous incarnez une mère bipolaire et tyrannique. On vous perçoit toujours, comme on l'a dit, discrète, lumineuse. Et je vais reprendre la question de Tom Villa. Qui est cette fois-ci Isabelle Carré, metteur en scène, metteuse en scène,
maîtrise?
J'ai qu'une expérience, donc c'était juste avec cette pièce-là, mais j'espère que ça va se reproduire. Ce que j'ai adoré, en fait, c'était diriger ces jeunes actrices merveilleuses, Alice Izaz, Armande Boulanger, Lily Taïeb. Voilà, c'était.
Et est-ce que vous vous découvrez différente? Parce que j'imagine que à la fois, quand vous interprétez des rôles, vous pouvez découvrir quelque chose de vous. Est-ce que vous vous découvrez, je sais pas, un peu tyrannique, un peu exigeante, un peu tatillonne?
Oui. Moi, ce qui m'a plu en fait dans cette expérience, c'était d'être obsessionnelle sur toute l'histoire en fait, parce que quand on est comédien, il y a juste le parcours de l'acteur, enfin le parcours du personnage,
De son rôle,
Son rôle. Et alors que là, de penser à toute l'histoire, à la musique de la pièce, au décor, à l'ambiance, à aider les acteurs, à être complètement dans la totalité de l'histoire. Et ça rejoint d'ailleurs quand on écrit un roman, en fait, c'est l'obsession. Donc voilà, c'est le côté obsessionnel. Ouais.
Et comment il se matérialise? Comment chez vous, il s'est matérialisé? Comment ce côté obsessionnel? C'est à vérifier 15 fois.
Est-ce que vous y pensez matin, midi, soir, nuit, à être obsédé en fait par tous les aspects de l'histoire.
Et est-ce que vous doutez beaucoup?
En fait, c'est plus dans une énergie en fait tellement vorace de ne rien oublier, de encore une fois de penser à tout et d'être dans l'histoire, au cœur de l'histoire. Ouais. En fait, c'est vraiment dans une énergie qui fait qu'il y a pas tant de place que ça pour le doute. Bien sûr, il y a des moments où...
Quand on doit choisir entre deux musiques et se dire les deux semblent convenir, mais laquelle est vraiment la bonne? Est-ce que dans ces moments-là, moi j'ai la sensation, quand je dois prendre une décision un peu importante, je me dis, ah mais quand dirait un tel ou un tel, presque capable de suivre aveuglément la décision d'un autre, tellement je suis incapable de la prendre toute seule?
Ouais, moi aussi je suis comme ça dans la vie. Ce qui me déstabilise le plus, c'est quand on me dit, t'es sûre?
Ouais.
Et là, je suis plus sûre de rien, évidemment.
Et vous êtes sûre de douter?
C'est ça. Une belle mise en abyme. Mais c'est pareil quand on écrit, en fait. Oui. Chaque phrase, c'est des choix.
C'est pour ça. Et là, c'est un bouquin qui fait quasiment 300 pages. Donc, le doute est là à chaque seconde.
Alors, la première étape, c'est vraiment le robinet qui coule, en fait. Et surtout que j'ai attendu quand même 20 ans avant de le faire. Donc, il y avait comme un palimpseste. C'était chargé, quoi. Ouais. Le robinet, il pouvait couler, là. Mais après, quand on retravaille le texte, là, évidemment, on peut devenir fou pour un mot, quoi. Être obsédé pendant 8 heures sur un mot. Ça, c'est une expérience à vivre.
Vous en avez parlé avec des professionnels?
Justement, j'aurais aimé partager ça avec des...
On va parler tout à l'heure, mais...
Vous l'avez partagé avec des écrivains.
Initialement, Philippe Jean, quand même, il faut rappeler la genèse de ce projet.
C'est vrai qu'en fait, ce robinet ne s'est ouvert qu'après l'atelier d'écriture de Philippe Jean. Une fois par semaine, tous les jeudis soirs pendant 3 mois. L'atelier s'appelle « Marcher sur la queue du tigre ». C'était vraiment ça. C'était pas juste une image. Et c'est vrai que c'est grâce à, oui, ses conseils, aux exercices qu'il nous donnait à faire toutes les semaines.
Sauf que, pardon, vous aviez déjà décidé d'écrire. Quand on va à un stage comme ça, on veut se perfectionner dans l'écriture, mais la décision est prise.
Mais à aucun moment, je me suis dit que j'en étais capable. Ça faisait 20 ans que j'essayais et que je n'arrêtais pas d'arrêter et que je rangeais à chaque fois mon manuscrit dans mon placard.
Et alors, quelle est la différence entre ce que vous écriviez avant et après?
Eh ben, je pense que c'est ses exercices, sa confiance.
4 000 euros, enfin bon, bref.
Non, c'était un peu moins cher que ça.
Pardon, non, mais c'était une blague.
Et puis, ces livres qu'il nous a fait lire. Je me souviens d'un livre de Stephen King qui a été très important, qui racontait par exemple de se méfier des petites chéries. Ces phrases guirlandes dont on peut être super fier. On se dit quand même là, j'ai réussi quelque chose. Et en fait, non. Voilà, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller vers la simplicité, au contraire. Enfin voilà, plein de pistes qui. Et puis, le fait de le faire tous les jours pendant 3 mois et d'accéder à un quotidien et d'avoir un rendu en fait à la fin. Parce que quand on est tout seul chez soi, il y a personne qui attend quoi que ce soit. Hein.
Ouais, mais à quel moment on dit
il y a pas de rendez-vous.
À quel moment on dit c'est bon, cette dernière version est la bonne?
Ça, c'est difficile. Moi, j'avais tendance à réécrire et pas savoir m'arrêter.
J'avais lâché la copie. C'est la bonne, celle-là.
Bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes vraiment bien dans la bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après Prince of Tears, Baxter Dury. Prince of Tears, Baxter Dury dans la bande originale. Ah, alors voilà un autre de rigolo. Tanguy Pastureau.
Orelsan, c'est ce rappeur à l'air pageoise qui est coiffé comme un balai à franges. Églez un rock ou France Inter kiffe, mais aussi des gens pas estampillés à gauche comme vous, Nagui. Aux dernières victoires de la musique, ce long sketch de Daphné Burki, lors duquel des chanteurs sont venus glapir leur titre car ils n'ont aucun respect pour les humoristes, Orelsan a eu 3 victoires, 3 V en plastique, aussi transparent que Bruno Le Maire. La première fois, il a remercié son label, la deuxième fois, ses amis, la troisième, il était prêt à adopter un chien juste pour avoir encore quelqu'un à remercier. Être trop récompensé est un enfer. Donc il s'est produit sur scène avec une caméra qui lui tournait autour super vite. Moi, comme un idiot au dîner, j'avais bouffé de la potée, j'ai vomi. Puis en coulisses, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, l'a salué. Hein. Elle avait révisé avec ses conseillers, s'est mise à lui dire « ça va, wesh, gros ». Ce à quoi il a répondu « mais qui êtes-vous » hein, parce qu'il est comme tout le monde, il ne connaît pas Françoise Nyssen. Elle est tellement anonyme que quand elle se voit dans le miroir de sa salle de bain, elle se met à hurler « mais enfin, que faites-vous chez moi ?» Si c'est pour l'argent que vous venez, il est dans un livre creux d'Alfred de Musset dans la bibliothèque, cherché à M, pas à D. Donc tout se passait bien pour Orelsan, album plébiscité, années, lui adoré, les filles trouvent ses fêlures attirantes, les garçons aiment son côté bad boy, les chats n'en ont rien à foutre et continuent à se lécher. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'une pétition demande à Madame Nissen l'annulation des prix reçus par Orelsan. On va venir chez lui, les reprendre et lui filer un bon d'achat chez Maison du Monde pour s'acheter 3 bibelots à mettre à la place. Une mouette en bois, un mini photophore et un brûle-encens. La pétition a déjà été signée par 27 000 personnes, outrées parce que quand il était jeune, Orelsan a fait une chanson sur la Saint-Valentin, pas piqué des hannetons, comme on disait il y a 60 ans du temps de Gérard Collomb. Il y prononce en effet la phrase Ma BI, etc., pour la Saint-Valentin. Ce qui démontre, un, son manque de galanterie, deux, le fait qu'il n'a pas pensé à plutôt acheter un cadeau. Hein, on va pas se mentir, quand on propose à l'autre son corps, c'est qu'on a zappé le coffret chez Sephora. Parce qu'à part Olivier Mine, personne n'a un corps qui entre en concurrence avec un bien matériel. Hein, moi, si une prostituée dans la rue me dit viens chérie, je lui réponds non merci, j'aime autant un mug. Alors, dans cette même chanson, il dit si t'es gourmande, je te fais la rondelle à la margarine, hein, ce qui lui a valu une invitation par Laurent Mariotte dans Petit Plat en Équilibre sur TF1.
Bon, alors apparemment depuis, Orelsan se serait excusé pour ses 2-3 chansons.
Mais oui, en plus,
erreur de jeunesse.
En plus, il a été poursuivi pour les paroles d'un autre titre en 2012 et encore en 2016 par des associations féministes et à chaque fois a été relaxé. Donc à un moment, il faut s'arrêter, hein, se dire le gars a mûri. Aujourd'hui, il ne parlerait plus de margarine, mais de beurre bio produit en local. Bref, il a une conscience. Et en même temps, à l'époque, il a quand même écrit dans ce titre où il parle à une femme, tu vas te faire Marie Trintignée. Hein, ce qui est aussi doux à entendre qu'un crissement de craie sur un tableau noir produit par un malade de la Tourette pétomane. Lui explique que c'était une fiction. Hein, il se mettait dans la peau d'un mec violent, comme Eminem l'avait fait dans sa chanson Kim, hein, du nom de sa femme, où il se décrivait en train de la tuer. Et il imitait la voix de Kim. Donc c'était un mélange entre Nicolas Canteloup et Charles Manson. Seulement, autant un rappeur ricain qui dit I'm gonna kill you, motherfucker, because I'm a motherfucking killer, ça nous dit rien parce que c'est en anglais. Autant le même truc en français, on n'est pas à l'aise. Hein, moi, si le rap s'était arrêté au groupe réciproque, lève les bras, balance-toi, laisse le groupe guider tes pas, mais ça m'allait tout à fait. Hein, après tout, Requiem pour un fou de Johnny, je l'aimais tant pour la garder que je l'ai tué, c'est un peu le même délire, mais avec de l'amour et sans margarine, et là, personne ne dit rien. C'est compliqué la fiction, parce que autant à la télé Joséphine Ange-Gardien, on se doute bien qu'en claquant des doigts, Mimi Mathy, elle fait pas réellement s'envoler la voiture du facteur. Autant en chanson, on se dit, ne met-il pas lui-même là-dedans? Ne serait-il pas un psychopathe? Hein, pareil pour l'exercice de la chronique. Si moi je dis, je vais buter Daniel Morin, ce fils de chien, tout le monde va flipper. Et si j'ajoute, non, mais en fait c'est un personnage, j'incarnais Pastu Robocop, un cyborg mi-robot, mi-intermittent du spectacle, ben vous allez me répondre, mon gars Mehdi Méclate nous a déjà fait le coup. Hein, le mec écrivait sur Twitter, fait entrer Hitler pour tuer les juifs, et après nous expliquait que c'était son double maléfique sadomaso SS timbré qui se connectait à son compte pendant que lui pionçait. Bref, Orelsan s'est excusé, ne chante plus les chansons incriminées et a été récompensé pour un album qui n'a rien à voir avec ses errements de 2006. Donc on pourrait lui laisser une chance. Enfin, je crois. Hein, moi, en rap, j'en suis resté à l'album Doggy Style de Snoop Doggy Dogg en 92. Hein, c'était en anglais, je me disais « Ouh, ça bouge !» J'ai compris plus tard que ça parlait que d'assassinat et de levrette. Mais je m'intéresse, je lis les paroles de morceaux récents et plein de titres de rap, en fait, sont sexistes, réac, parlent que d'huc et de violence. Donc si vous faites tomber Orelsan, les amis, faites tomber tout le monde ou personne. Moi, ça me manquera pas, hein, je m'en fous de tout ça. J'écoute Réciproque.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
J'irai où tu iras, mon pays sera ton. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Ça, vous l'avez chanté dans la salle de bain avec une brosse à cheveux?
J'ai chanté partout. Là, j'ai... Comment vous dire, Céline Dion, je suis méga premier degré sur Céline Dion. J'aime tout ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Je prends tout, en fait.
Même quand elle fait les Whitney Houstonry, tout ça.
Oui. Je prends tout, j'aime tout. Elle a toujours le pouce, les pouces levés. Tout est nickel, les cheveux, ça brille. Tout marche.
D'accord.
Moi, j'ai une vraie question. Pourquoi le sexe féminin entre 20 et 40 ans est tant passionné par Céline Dion?
Parce que
et
c'est comme un...
Calme-toi.
J'ai ma réponse. En fait, c'est comme un hologramme. Rien n'existe. Mais tout d'un coup, le Canada, l'accent, le côté je parle de mes ovaires partout, tout ça, et ben ça devient comme ton amie d'enfance.
Et elle ne trie pas, mais parce qu'il n'y a pas de passoire quoi, entre ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Ah oui, mais tout est dit comme
mais
ça.
Mais c'est un paradoxe, parce qu'il n'y a pas de firewall dans ce qu'elle dit, mais dans firewall. Ce qu'elle est, tout est super méga, ça n'existe pas en fait. Ouais.
Bah, rien n'existe, mais tout est vrai.
Ouais, donc, et voilà, c'est exactement
elle
ça.
Est sans filtre.
Ça me fascine, moi.
Et à cette époque-là, vous êtes Géraldine à la télé, à Canal+, et vous occupez des castings de Groland.
Voilà.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'on fait quand...
On voit des petits vieux et on leur dit déshabillez-vous.
Oui, c'est vrai. Non, je devais appeler des gens. Allô, bonjour, est-ce que Maurice est là, s'il vous plaît? Alors, soit on me disait il est décédé, soit on me le passait et je devais dire est-ce que vous voulez venir passer un casting? C'est pour un sketch. Oui, qu'est-ce que je dois dire? Que vous avez trois couilles. Ils avaient l'âge d'être mes grands-parents. C'était... Mais j'ai appris un métier pour le coup. Mais c'était un peu, à chaque fois, un peu délicat.
Est-ce que des comédiens, puisque vous contactiez avec un fichier de comédiens, est-ce que certains refusaient en disant je ne veux pas être dans Groland?
Non, on me disait jamais je veux pas être dans Groland, mais on me disait je dois vraiment dire ça? Bon, je vais voir avec ma femme, je vais voir. Mais sinon, non, on me disait jamais je veux pas être dans Groland.
J'ai toujours halluciné en regardant, parce que je suis fan de Groland, en me disant mais comment ils sont sans limite.
On va les chercher, hein, parce on
les travaille au corps, quoi.
Ah ouais, on les travaille au corps. C'est pas des comédiens que tu trouves à la NPE du spectacle facile. Hein. C'est faut aller les chercher. J'allais dans des clubs de tango. C'était un vrai délire. Ouais, c'était un délire.
Mais en tout cas, bravo, hein, parce qu'il y a des profils qui sont incroyables.
Mais t'as pas joué dedans?
Non, pardon. J'aurais tellement aimé.
Pas encore.
Trop jeune.
Et vous continuez quelques années après, très peu en fait. Vous passez sur Comédie et là cette fois-ci vous devenez productrice exécutive d'émission.
Payé 7 francs CFA.
Forcément. On imagine tout de suite
qu'il y a
fortune derrière et hélas. Et là, quelle était votre mission, puisqu'une fois que vous avez quitté les petits vieux de Groland?
Là c'était d'aller chercher les nouveaux jeunes. Donc c'était génial parce qu'à Comédie avec Dominique Farrugia, il avait cette envie-là, quoi, aller dénicher les nouveaux, quoi, la jeunesse. Et c'était super. On passait du temps, on travaillait 22 heures par jour à aller essayer de trouver des talents, mettre en place un direct. Il y avait une émission en direct qui s'appelait La Grosse Émission tous les soirs. À l'époque où j'y étais, c'était Cadet Olivier qui l'a présenté. Donc c'était aussi à la culture du rythme et puis à boire et à manger, quoi. On met une perruque, qu'est-ce qui nous vient? Alors je me souviens de Cad à qui on donnait des caisses de perruques ou de toupets et puis c'était juste avec une moustache qui trouvait un personnage.
Parce qu'il en a besoin déjà.
Donc c'était un peu grisant pour lui. Parfois on trouvait un sketch juste avec une moustache. Il se disait tiens ça ressemble à machin, il y va. Et puis le soir on était en direct et fallait produire ça, quoi.
En plus il y avait une très bonne ambiance, y compris quand on y passait juste en guest comme ça quelques minutes, on avait l'impression de débarquer dans une bande de potes, d'être accepté dans la bande de potes avec de la bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était fait pour être méchant ou mal à l'aise, et puis la complicité fonctionnait extrêmement bien aussi avec le public. Il faut préciser que le studio était installé dans Paris, donc il y avait...
un théâtre.
Exactement, on ne quittait pas la capitale pour aller dans les studios de la Plaine-Saint-Denis ou à Issy-les-Moulineaux et machin, c'était la télé qui venait chez les gens et pas
à l'époque, tout n'était pas repris sur Internet, tout ça, donc il fallait venir au théâtre, voir l'émission ou avoir la chaîne chez soi pour voir les sketchs. Donc du coup c'était très intime.
C'est dommage que ça n'existe plus parce que un groupe comme Canal a beau dire qu'ils ont des problèmes de budget, ils auraient quand même les moyens d'avoir ce formidable vivier de création d'humoristes.
Ils ont retenté l'année dernière.
Avec une chaîne
Sur Comédie, 18h18 je crois. Ouais. Enfin, la grosse
parce que j'ai l'impression aujourd'hui que ça
ils devraient tenter sur Canal, ils auraient peut-être besoin de faire une émission plus drôle.
Ça se passe peut-être sur Internet. En tout cas la façon de faire, en tout cas quand je vois ce qui se passe sur Internet, je me dis c'est marrant, c'était un peu notre façon de fabriquer à l'époque sur Comédie et que du coup c'est peut-être un peu hier, quoi.
Il n'y a plus besoin de le faire à la télé en fait parce que finalement la cible elle va direct sur Internet, elle regarde pas la télé.
Vincent Desanier, vous écoutiez fin des années 2000.
Fin des années 2000.
Tu peux écouter encore aujourd'hui si tu veux. T'es pas obligé d'écouter le jour de la sortie.
Ah ouais. Herbie Hancock, j'écoute depuis que je suis tout petit.
C'est vrai? Mais parce que vous dansiez le Smurf là-dessus?
Avec mon grand frère François, on a pas mal fait de...
Breakdance?
On a pas mal fait de Smurf, honte.
Mais sur Benny B, t'as dansé aussi, mais vous êtes fou?
Ah non.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Vous me connaissez? J'aime tendre la main aux personnes en difficulté. C'est encore le cas aujourd'hui avec Guillermo Guise.
Bonjour les amis.
Non, salut.
Bonjour. Alors j'en parlais encore ce matin avec le chauffeur de Leïla en sortant de la limousine qu'elle partage avec Patrice Lafont. Eh bien,
c'est bien que j'adore Pyramide. Je voulais être Marie-Ange Nardi quand j'étais jeune.
Et Laurent Brunet, on l'embrasse.
Bon, encore deux ans.
Tu es au courant que c'est Guillermo Guise qui parle.
Eh bien, oui, alors moi, quand c'est moi, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, Guillermo. Alors, je vais faire une parenthèse. Information, c'est dégueulasse.
Information.
Pas moins de 4 Français sur 5 auraient déjà contracté une MST fois dans leur vie, si l'on en croit un sondage réalisé auprès de mon groupe de potes à Paris. Sondage qui révèle également qu'un Belge sur 1 serait dans le même cas de figure. Même si, toujours d'après cette enquête, c'est pas une raison pour le juger. Ça fait pas lui un mauvais collègue. Alors, urgence sanitaire. Il est trop tôt pour se prononcer, Nagui. J'imagine bien que le sujet vous brûle les bouts. Surtout quand on connaît, surtout quand on connaît la frénésie avec laquelle vous déployez votre libido dans les caves de France Inter. Frénésie scientifiquement épatante pour un mammifère. C'est pas votre éternel souffre-douleur Tom Villa dit le tatami qui témoignera du contraire. Donc plus que jamais, protégeons-nous des MST. La mauvaise nouvelle pour nos auditeurs sexuellement actifs, s'il en reste, il en reste.
Des auditeurs, oui, et sexuellement actifs, on veut pas savoir.
Mais la mauvaise nouvelle, les amis, c'est que les préservatifs de consommation courante seraient eux aussi gorgés de perturbateurs endocriniens. Comme tout le monde, comme les sans plomb et les pop blédina. Et ouais, c'est moche. Moi, ça me donne envie de crever dans une pub cette Hélène. Vraiment, c'est triste, mais bon. C'est vrai, t'es là, tu te dis, je mets un préservatif, je sens pas grand chose, je vais débander dans 10, 9, 8, 7, comme une fin de match de PSG finalement. Mais au moins, je suis sûr de pas contacter une gonorrhée ou une pension alimentaire. Enfin voilà, je fais mon devoir de citoyen. Ah ben non, t'es contaminé, quoi. Même baiser safe, c'est plus safe. T'imagines, c'est pas un truc de fou. C'est quoi la prochaine étape, quoi? La fidélité, enfin, n'importe quoi. Les 5 fruits et légumes, les services militaires. Enfin, merci les industriels. En fait, comme c'est des dispositifs médicaux, les industriels ne sont pas obligés de révéler la composition exacte de leurs produits. Du coup, à tout moment, tu peux ken avec un pneu recyclé, plein de citrylixolane, qui est une molécule qui permet de faire diversion par rapport au fait d'avoir utilisé le terme ken sur France Inter. C'est fou, non? J'ai lu ça dans un article France Info hier matin, qui avait un petit côté vengeance de célibataire, d'ailleurs, qui était assez drôle. Ça commençait comme ça, c'est la Saint-Valentin, mercredi 14 février, s'annonce sous ses meilleurs auspices. Vraiment? Interrogation. Genre vraiment, tu crois qu'ils vont t'intéresser comme ça, niquer comme un bonobo le 14 février, taper le beurre, l'agent du beurre et la twingo de la crémière? Non, mon pote. T'as cru que t'étais le roi du disco? Pas du tout. Pendant que nous, les perdants du contenu sexuellement transmissible, on profitait du débrief réel PSG pour faire l'amour à nos phalanges, comme des détenus finalement. Toi, tu te chopais des hydrocarbures sur la table? Ben ouais, prends ça, DSK. Eh ben, c'est vrai, on aura peut-être jamais le DAS, mais on n'aura pas le cancer non plus. C'est la revanche des branleurs, c'est vrai. Le temps des abstinents. J'ai toujours su que c'était chelou le préservatif. La première boîte que je me suis achetée, c'était en 93. Et quand j'ai eu l'occasion de l'ouvrir en 2007 pour dépenser mon premier salaire, eh ben, les préservatifs, ils étaient encore intacts. Il y a des conservateurs pas nets dedans, c'est sûr. Ils mettent des trucs, genre le préservatif goût truffe, par exemple. C'est pas de la vraie truffe.
Non.
C'est sûr. Impossible, c'est vrai.
Pas possible.
C'est du chimique. Alors évidemment, comme tous les perturbateurs endocriniens, les risques augmentent avec les doses d'exposition.
Ouais.
Évidemment, donc faut pas trop s'avaler. Moi, j'ai un pote addict à Tinder, par exemple, par convention, appelons-le d'aller morin. Eh ben, il porte un préservatif semi-permanent. Au cas où, on sait jamais sur qui on tombe. Mais voilà, je commence déjà à voir qu'il a les traits tirés, les cheveux qui s'échappent. Mais oui, c'est comme ça, ça calme quand même, évidemment. Vous vous rendez compte? Même les sex toys en plastique sont pleins de phtalates, de chlore, etc. et de trucs du genre. L'article conseillait d'ailleurs pour être sûr de s'orienter vers des sex toys en silicone, en céramique, en verre ou en bois.
En céramique?
En bois, comme pendant la Révolution française.
Non, mon Dieu.
Imagine, apparemment, du côté de Millemontant, il y a un petit menuisier très sympa qui fait des boules de geisha sans parabènes. Sinon, très tôt le matin chez Rungis. Voilà. Pareil pour les préservatifs d'ailleurs. La société suisse Green Condom produit des préservatifs certifiés sans perturbateurs endocriniens et on en profite pour saluer Thomas Wiesel dans sa nouvelle carrière. Tu nous manques Thomas, mais c'est pour la bonne cause. Grâce à toi, on va pouvoir ken bio.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Stop ! Place au talent, place au sublime, place à moi. Il me dégoûte. Aujourd'hui, les amis, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que...
Oui, c'est un grand jour, mon ami.
Oui, je sais ce que j'étais en train de dire, François. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras.
Mais on s'en tamponne de Mardi Gras.
Ah, c'est pourquoi ce grand jour?
Mais enfin, espèce de débile.
Oh, dites donc.
Ta gueule, laisse-moi parler. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est l'anniversaire d'un grand de la chanson française. Que dis-je un grand? Un très grand. Que dis-je un très grand? Un immense. Que dis-je un immense? Un colosse. Que dis-je un colosse?
Oui, bon, ça.
Oui, je suis d'accord avec Nagui, ça suffit. Allez-y, accouchez.
Moi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un.
J'adore.
Bon anniversaire, mon garçon!
Ça lui fait quel âge? 12, 13, 88 ans?
Il a 27 ans, mais il en fait à peine 26 et demi.
Quel artiste!
Quelle voix! Quelle mélodie! Quelle inspiration! Quel cul! Quel rythme! Quel fougue! Quel talent!
Là, c'est vrai que c'est bien.
C'est génial, tu veux dire.
Il y a du génie là-dedans. Je comprends pas pourquoi Nagui peut pas le blairer.
J'adore!
Ménagui est un âne. Il n'y connaît rien aux écmus.
Bon, c'est pas tout ça, François, mais on n'est pas là pour fêter Vianney. On est là pour parler du film de Clovis Cornillac, Belle et Sébastien III.
Bon, ben, je m'en vais, hein. Je suis pas content.
C'est ça. Allez, au revoir. Clovis Cornillac, vous êtes venu nous voir pour parler de votre film Belle et Sébastien III. Ça y est, on a atteint le troisième, c'est devenu une saga. Petit retour en arrière. France Inter, en partenariat avec 30 millions d'amis et Frolic, présente Belle et Sébastien. Sébastien, c'est le petit garçon. Belle, c'est la grosse chienne. Et leur aventure est drôlement dangereuse. Ils doivent lutter contre les nazis. Et les nazis, c'est pas des rigolos. Alors, est-ce que Belle va réussir à gruger les forces du Reich ou bien va-t-elle se faire buter? Vous le saurez en allant voir Belle et Sébastien. Waouh, sacrée intrigue. Heureusement pour les fans, Belle et Sébastien, Dieu est très vite arrivé. France Info, en partenariat avec 30 millions d'amis, Royal Canin présente Belle et Sébastien 2. Sébastien, c'est toujours le petit garçon. Belle est encore une grosse chienne. Et leur aventure est une fois de plus super dangereuse. Cette fois, ils doivent lutter contre un feu de forêt. Et un feu de forêt, c'est méga chaud. Alors, est-ce que Belle va réussir à passer les flammes ou bien va-t-elle se faire griller comme une vulgaire saucisse? Vous le saurez en allant voir Belle et Sébastien 2. Waouh, là les fans étaient dingos de chez dingos. Heureusement, le 3 est très vite arrivé. France Musique, en partenariat avec 30 millions d'amis et Kenny Goo, présente Belle et Sébastien 3. Sébastien ne grandit toujours pas. Belle est décidément une éternelle grosse chienne. Et leur aventure, cette fois, est vraiment flippante. Ils doivent lutter contre Clovis Cornillac. Et Clovis Cornillac, il a vraiment une tête qui fout les chocottes. Et pas que. Rappelez-vous dans Brise de Nice. À chaque pied, il n'a qu'un seul orteil. Est-ce que Belle va réussir à battre à la course un mec qui cavale avec un seul orteil à chaque pied? Vous le saurez en allant voir Belle et Sébastien 3. Je suis sûr que dans très peu de temps, les fans vont être en manque et réclameront une suite. Heureusement, tout est prévu. France Bleu, en partenariat avec 30 millions d'amis et Friskies, présente Belle et Sébastien 4. Belle et Sébastien, c'est une incroyable et toujours histoire d'amour avec un petit garçon. Belle, à l'âge, est devenue une très grosse chienne. Et leur aventure, c'est pas de la tarte. Belle est en prise avec l'enfer de la drogue et de la prostitution canine. Et les macs et les dealers, c'est pas des rigolos. C'est même souvent des fumiers qui n'hésitent pas à pratiquer le coucouchoum carré. Alors, est-ce que Belle va réussir sa désintox et trouver la sortie du bordel pour Pitbull? Ou bien va-t-elle crever d'une overdose? Vous le saurez en allant voir Belle et Sébastien 4. Un vrai carton. Du coup, la suite n'a pas traîné. France Musique, en partenariat avec 30 millions d'amis et Fido Boucher au Bœuf, présente Belle et Sébastien 5. Sébastien n'est plus un petit garçon. Nous sommes en 2022. Il a épousé Anne Hidalgo, élue maire à Vic. Il l'aide à participer les JO de Paris 2024. Belle est maintenant une vieille chienne qui, après avoir vaincu son addiction à l'héroïne, fait de la politique et ça marche plutôt bien. Et cette fois, l'aventure de Belle est vraiment la plus dangereuse de sa vie de chienne. Au deuxième tour de la présidentielle, elle est opposée à Marine Le Pen, et là, ça lui rappelle ses premières aventures contre les nazis. Alors, est-ce que Belle va devenir la première chienne présidente de la République, ou bien va-t-elle se faire buter? Vous le saurez en allant voir Belle et Sébastien 5. Alors, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi, mais la saga Belle et Sébastien, c'est quand même beaucoup plus fort que Star Wars. À demain.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est terminé pour aujourd'hui. Un meilleur de bande originale réalisé par l'excellente Marie-Annick Rimbaud. Allez, rendez-vous demain, même endroit, même heure. En attendant cet instant si doux, je vais siffler, tiens, comme le canari. L'eau.